Il y a plusieurs sortes d'histoires, comme il y a plusieurs sortes de télévision. Il y a évidemment l'histoire qui étudie les grands mouvements des peuples et des civilisations. Il y a la télévision qui utilise des très grands moyens, des grands studios, de nombreuses distributions. Puis il y a aussi l'histoire qui raconte des histoires et la télévision qui se borne à un seul acteur, c'est-à-dire l'ami qui raconte des histoires à ses amis. Eh bien, je choisirai ce second genre d'histoire et ce second genre de télévision.
En 1969, premier numéro d'Alain Decaux raconte sur la deuxième chaîne de l'ORTF. Depuis, l'histoire s'est invitée à la table des Français. L'histoire est une certaine façon de la narrer. Longtemps confinée dans les livres, ce qui n'était qu'une matière à l'école devient un objet culturel et ludique. Elle est parfois malmenée, parfois contestée. Elle demeure à l'origine de formats médias qui fascinent et attirent des millions de téléspectateurs. Grands documentaires, séries et docu-fiction. Ce soir, la cinquième saison du docu-fiction La Guerre des Trônes s'achève sur France 5. Deux épisodes pour retracer une partie du règne de Louis XV avec des reconstitutions très précises des événements, avec des phrases qui ont généré un récit national et avec un passeur, un passionné dont l'art oratoire permet d'appréhender avec une bonne dose de plaisir et d'humour l'action des grandes dynasties européennes, Bruno Solo, conteur de notre passé et sans doute d'une partie de notre présent, est l'invité de l'Instant M.
L'Instant M, Eva Rock sur France Inter.
Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Eva.
Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Inter en ce 30 décembre. Seriez-vous un homme du passé, Bruno Solo ?
Non, mais qui sait que c'est grâce au passé que je comprends mieux ce que je vis aujourd'hui. Voilà, ouais. C'est une formule maintenant qui est très connue. Effectivement, le passé éclaire notre présent. Et là, je voudrais juste revenir sur le début, l'introduction de votre émission. On entendait la voix d'Alain Decaux. Il a tout dit. Il a tout dit. Et il l'a dit avec cette voix, cette délicatesse, cette bienveillance, cette voix qui, moi, m'a fasciné. Parce qu'en 69, j'avais 5 ans. Alors évidemment, là, c'était des souvenirs beaucoup plus lointains. Mais l'émission a continué bien plus longtemps.
Bien sûr.
Et je la regardais. Je me souviens d'Alain Decaux raconte. Et je pense qu'un des premiers, avec mon papa et un professeur d'histoire sur lequel on reviendra, c'est sans aucun doute un des premiers qui m'a fait comprendre que l'histoire, c'était des histoires. Et que pour mieux la comprendre, il fallait bien la compter. Et je trouve l'humilité avec lequel il fait, parce que lui, pour le coup, c'était quand même un historien, c'était un chercheur, et l'humilité dans laquelle lui, il se met en disant « je suis juste un conteur, l'ami qui raconte des histoires », je trouve ça d'une délicatesse, d'une poésie, d'une beauté extraordinaire, et il résume absolument ce que je veux faire, d'autant que moi, pour le coup, je suis vraiment qu'un conteur et un passeur, parce que je n'ai pas de diplôme, je ne suis pas historien, je ne suis pas chercheur, etc.
Mais vous êtes un féru d'histoire, parce que
je m'appuie sur le travail des historiens.
Et vous êtes un féru d'histoire, vous lisez beaucoup de biographies historiques,
beaucoup.
Votre papa, vous récitez, j'allais dire,
ouais.
Vous racontez des histoires, ouais. Vous avez été fasciné par un prof d'histoire,
ouais,
qui a été extrêmement important. Donc, là, votre légitimité aussi dans cette émission, dans La Guerre des Trônes, elle tient aussi à ça, à tout ce parcours que vous avez eu jusqu'à présent.
Bah, il semblerait, au début, ça a été un peu plus difficile. Et la première année, évidemment, il y a des gens qui trouvaient que j'étais un peu anachronique. Qu'est-ce que c'est que cet Olibrius qui vient nous raconter l'histoire? Un de plus ou un de moins, je ne sais pas, en fonction de là où on se place. Mais petit à petit, lorsque les interviews, lorsque j'ai eu l'occasion de dire ma passion pour l'histoire qui remonte à très loin, effectivement, si c'est de la légitimité, en tout cas, on s'est dit, bon, allez, pourquoi pas après tout? Et il y a des gens qui se sont dit, pourquoi pas lui? Et là, depuis 5 ans, maintenant, et puis avec le livre Les Visiteurs d'Histoire qui est aux éditions du Rocher que j'ai sorti au mois d'octobre, effectivement maintenant, si je ne suis pas légitime, en tout cas on ne me conteste pas l'idée que je suis un passionné et qu'en tant que passionné j'ai le droit, comme d'autres, de transmettre cette appétence pour l'histoire.
Et surtout, ça marche en plus. La Guerre des Trônes est un succès d'audience avec en moyenne plus d'un million de téléspectateurs pour chaque épisode. Et tout ça sans aucune image d'archive, bien évidemment. Un budget restreint qui a un peu augmenté au fur et à mesure des saisons. Comment le format a évolué depuis 2017? Comment raconter avec précision en fait tous ces grands événements quand les sources sont rares à ce point-là?
Alors, elles sont rares lorsque vous commencez la première saison. On était sur sur la guerre de 100 ans. Donc là, effectivement, on sait que le Moyen-Âge était une période de faussaires et d'escrocs en matière de raconteurs d'histoire. C'est-à-dire beaucoup de témoignages qu'on a sur médiévaux. Il faut s'appuyer sur les chercheurs d'aujourd'hui, parce que si on s'appuie sur les documents de l'époque, des fois, il faut savoir les interpréter et en tout cas en tirer la substantifique moelle, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais plus on avance dans le temps, effectivement, plus on a des témoignages précis, des écrits, qui font qu'on est un peu plus sûr des faits. Et là, de ce point de vue-là, voilà comment ça a évolué. Moi, j'ai évolué dans le sens où, au début, j'étais un peu au service, un peu solennel d'une histoire, et peut-être que des fois, si elle ne m'écrasait pas, en tout cas, elle m'impressionnait, et je me dis, c'est pas le moment de venir faire le guignol. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années, je me suis senti un peu plus à l'aise avec l'objet historique, et je me suis dit, je peux y mettre un petit peu de mon humeur. Et la grande évolution, surtout, je pense que c'est surtout au niveau des reconstitutions. Parce que les deux premières années, on était sur des ressemblances, c'est-à-dire oui. qu'on cherchait des comédiens plus ou moins inspirés. Je ne mets personne au banc de mon jugement, mais effectivement, il y avait des comédiens plus ou moins inspirés, mais qui ressemblaient à l'idée qu'on se faisait des personnages, des gravures, des miniatures qu'on connaissait d'un Louis XI, d'une Aliénor d'Aquitaine. Non, Aliénor, on ne l'a pas traité. Mais peu importe, on cherchait des ressemblances.
Elle est dans le livre, c'est pour ça.
Elle est dans le livre, c'est pour ça que je fais une confusion. Mais en revanche, plus les années avançaient, plus on s'est dit, faisons fi des ressemblances et trouvons des vraies comédiennes, des vrais comédiens dignes de ce ton. Et on a aujourd'hui des gens comme Boris Terral, comme Marie-Christine Adam, on a eu des gens comme Maxime Dabeville, etc. Vraiment des acteurs chevronnés, excellents, et ça, pour moi, c'était important, parce qu'en tant que comédien, j'avais aussi envie de sentir que l'histoire était servie par des gens qui savaient la raconter. L'interpréter, pardon.
Et c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Et puis c'est vrai que vous, le fait que vous soyez aussi plus à l'aise change beaucoup de choses. J'ai pris un extrait, juste pour comprendre, pour faire comprendre en tout cas pour les gens qui ne connaîtraient pas encore ce format, La Guerre des Trônes, que vous êtes un conteur, un comédien conteur. La preuve avec cet extrait de l'épisode 5, vous revenez sur la bataille de Fontenoy, c'était en 1745, entre la France et une coalition européenne, et vous n'hésitez pas à imaginer et à jouer une scène.
L'anglais, fair play, normal. Monsieur, faites donc tirer vos gens. Le français, se voulant courtois, de répondre « Ah non, monsieur, nous n'en ferons rien, vous tirez les premiers. » Résultat de cette politesse plutôt malvenue, la première salve anglaise fait 1000 morts chez les français.
Alors j'ai choisi cet extrait parce que c'est un exercice périlleux. La comédie, elle doit pas l'emporter finalement sur la véracité du récit. C'est ça votre difficulté ?
Bah oui, en tout cas c'est l'équilibre à trouver. Ouais. L'équilibre entre le moment où vous sentez qu'il y a des choses extrêmement graves, où il faut être très pédagogue, très très presque didactique et bien expliquer les choses parce que c'est très difficile toutes ces dates, tous ces événements, tous ces souverains, toutes ces batailles, etc. Il faut pouvoir retenir. Et il y a des moments où vous dites là on peut se permettre un peu plus de fantaisie parce que c'est un détail presque. Voilà. Mais oui, 1000 morts, c'est pas un détail, mais à l'aune d'aujourd'hui, effectivement, c'est en 1745, disons qu'il y a prescription et qu'on peut se permettre de faire de l'humour là-dessus. Je pourrais pas me permettre de faire un humour sur un tel massacre s'il avait eu lieu là, il y a une quinzaine d'années, voire une cinquantaine d'années. Là, bon, voilà, tous les descendants de ceux qui ont peut-être, on ne sait même plus, on n'a plus leurs traces. Donc, il y a ça aussi. Et puis, en plus, je me suis dit que c'était une manière d'illustrer un épisode très connu de l'histoire, messieurs les Anglais tiraient les premiers, et d'en montrer justement là, le côté un peu grotesque, oui. Parce que cette politesse effectivement malvenue de la part d'un capitaine français qui demande, genre pour montrer à quel point, alors que les Anglais sont censés être les inventeurs du fair play, et que là la manière dont il est dévoyé par les Français en disant soyez fair play et tirez-nous dessus, il y a quelque chose de grotesque et de dramatique, de pathétique dans cette histoire, donc je voulais y amener cette dimension là.
Voilà. Alors c'est un exemple de ce qu'on peut entendre dans cette série dont tous les épisodes sont disponibles d'ailleurs sur France.tv.
Oui, oui.
Ce soir, c'est le cinquième et le sixième, mais évidemment, vous pourrez regarder toute la série. Quelle différence y a-t-il, Bruno Solo, entre cette forme de narration, donc le docu-fiction, en l'occurrence, et puis l'incarnation d'un personnage, comme vous l'avez fait pour la télé, je pense notamment à Pierre Mendès France.
Ah ben c'est-à-dire dans le rôle que j'ai dans Cabaret.
Oui, et puis même dans la façon aussi de raconter l'histoire.
Ah oui, non, mais bien sûr. Mais là, je suis au service d'un texte. Lorsque je suis Mendès France, je suis au service d'un scénario, donc écrit par Laurent Hinman, tiré d'un roman de Brodin. Donc là, je suis totalement au service du personnage et je m'informe sur le personnage parce que je dois l'incarner. Donc j'ai beaucoup lu sur lui, etc. Là, je suis un passeur. Donc j'alterne entre la comédie et le professeur, quoi. soit le professeur bienveillant, évidemment, qui veut transmettre sa passion. C'est pas tout à fait pareil. Lorsque vous jouez, vous n'êtes qu'au service de l'humeur du personnage telle qu'elle est écrite. Tandis que là, je peux jouer avec mes humeurs. Je peux être tragique, je peux être plus docte, je peux tout d'un coup être plus léger. Effectivement, c'est pas du tout le même exercice. Ouais.
Pourquoi s'interroger dans La Guerre des Trônes et souvent dans les émissions d'histoire à la télé, pourquoi s'interroger toujours sur les puissants, sur le pouvoir, sur les grands de ce monde, au détriment d'une histoire du peuple, qui est c'est une critique récurrente quand on parle d'émissions d'histoire à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Je pense que c'est une critique tout à fait justifiée et j'aimerais effectivement avoir la possibilité de temps en temps et c'est ce que je fais dans l'émission, dans la mesure du possible et du cahier des charges, qui est quand même raconter comment l'Europe s'est constituée. Et évidemment, l'Europe s'est constituée depuis la guerre de 100 ans. On passe évidemment par les souverains, par les stratégies, par les alliances, par les trahisons. Et je tiens de temps en temps à montrer ceux qui subissent aussi l'histoire. Je tiens à faire part de leur souffrance et de leur combat, de leurs idéaux, de leur difficulté à exister. Et là, pour ça, effectivement, la télévision est peut-être un petit peu moins concernée. C'est pas toujours vrai. C'est vrai pour des grandes émissions de vulgarisation, comme le font Laurent Deutsch, comme le fait Stéphane Bern, comme je le fais, oui. Etc. Après, lorsque vous rentrez un petit peu dans le détail de la chaîne Histoire, ou sur Arte, parfois, vous avez des documentaires qui sont très précis, qui parlent d'une période extrêmement précise. C'est pour ça que je, tenant à cela, et parce que c'est comme ça que moi j'aime aussi l'histoire, j'ai beaucoup lu Alain Corbin, j'ai beaucoup lu Le Roi Ladurie, qui ont écrit des livres sur l'histoire vue au travers, par exemple, de sa paysannerie, dans Le Miasme et la Jonquille, ou dans Motaillou, Village Occitan, ça c'est un livre d'Emmanuel Le Roi Ladurie, et qui raconte comment, effectivement, au Moyen-Âge, vivait le peuple, oui. et sans évocation sur ceux qui les dominaient, sur ceux qui les rendaient servile quasiment, et ça effectivement on l'a plus dans les bouquins, et c'est pour ça qu'il faut, par la grande histoire, par sa vulgarisation, il faut aussi mettre un coup de projecteur sur ceux qui subissent l'histoire, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre aussi, parce que dans le livre ça me permet effectivement d'être sur des personnages qui sont pas nécessairement des personnages très connus ou qui sont en tout cas mal connus, comme Christine de Pizan, même comme le Chevalier d'Eon, et ça me permet effectivement de les ramener à leur rang, moins à leur rang de cette universalité que représente quelqu'un comme Louis XIV, mais les ramener au rang d'humain, etc., dans la psyché des personnages.
Oui, parce que vous venez de publier donc Les Visiteurs d'Histoire, dans lequel vous imaginez qui pourrait être vos invités à un dîner imaginaire. Vous créez un dialogue avec Clovis, le Chevalier d'Eon, donc Louise Michel ou encore Georges Mandel, et vous abordez, je trouve en tout cas, comme dans La Guerre des Trônes, l'histoire avec humour et surtout avec une volonté évidente de transmettre. Vous le disiez, ce verbe, tout à l'heure. C'est cette notion de transmission qui est le premier but dans tous les projets que vous acceptez, généralement ?
Ouais.
Parce que même pour Mendès France, on en parlait, c'est une fiction, mais vous êtes aussi dans un rôle de transmission d'une histoire. Alors à travers un personnage,
oui,
mais toujours cette notion-là.
Dès lors que vous acceptez un rôle d'un personnage ayant existé, vous transmettez effectivement ce que ce personnage a laissé, les marqueurs qu'il a laissés dans l'histoire. Et voilà, vous êtes. Mais la transmission, c'est quelque chose de. Moi, joie d'apprendre, elle est plus grande que ma joie de savoir, si tant est qu'on puisse avoir la prétention d'imaginer qu'on sache quelque chose. Mais bon, à force d'apprendre, on commence à mieux savoir, en tout cas. C'est pas à savoir, mais à mieux savoir, à mieux comprendre. Et moi, cette joie, elle est immense. Et parce que cette joie est immense, elle est tout aussi grande que de transmettre cette joie d'apprendre. Donc, la transmission, c'est essentiel parce que elle permet non pas de guider les gens, mais elle permet de les éclairer et de leur laisser le choix ensuite de regarder comment ils ont envie de voir un événement. Et ce que vous disiez tout à l'heure sur l'histoire, effectivement, en parlant de Louis XIV, et en ne parlant que de Louis XIV, de Louis XV, d'Henri IV, de Aliénor d'Aquitaine, de Madame de Pompadour, etc., si on ne parle que d'eux, eh bien, on a une vision un peu étriquée de l'histoire, bizarrement. Mais en parlant d'eux, on donne la possibilité à des gens de se dire, mais comment ça se passait à l'époque? Et là, on peut effectivement aller chercher, on peut aller fouiller, on donne aux gens la capacité, en transmettant, de s'émanciper de l'histoire officielle, de ce qu'on leur raconte. Ça, c'est essentiel, vraiment, de comprendre que lorsqu'on vous transmet quelque chose, on vous le transmet pour qu'on puisse que vous puissiez ensuite en faire votre propre interprétation. Voilà, et ça c'est essentiel. Et c'est ce que j'aimais moi dans les professeurs d'histoire qui m'ont passionné, c'est ceux qui prenaient le manuel, qui le lisaient, qui au bout de 10 pages le fermaient et nous disaient voilà comment moi je vois les choses. Oui. C'est très subjectif en fait. L'objectivité ça n'a d'importance que pour les faits.
On est bien d'accord.
Pour les faits, un fait est objectif, mais pour le reste c'est subjectif. Donc cette subjectivité, il faut l'entretenir, il faut la cultiver. Et ça c'est grâce à la transmission.
Alors en matière de transmission, il y a un autre média qui s'est imposé depuis quelques années, c'est YouTube. On ne compte plus le nombre de chaînes qui ont fait de l'histoire leur spécialité. Je pense notamment à Nota Bene, son fondateur Benjamin Brio d'ailleurs a une très bonne nouvelle.
1 million d'abonnés. Est-ce qu'il y a franchement un chiffre plus irrationnel que ça? Je pense pas. En tout cas, quand j'ai commencé en 2014, j'avais clairement un balai coincé là où je pense. Quand je présentais les émissions, vraiment, j'étais très 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 loin d'imaginer qu'on puisse en être là un jour aujourd'hui. Quand j'ai passé les 100 000 abonnés, j'avais commencé à m'amuser à compter en Paris-Bercy. 100 000 abonnés, ça faisait 5 Paris-Bercy, plein craqué. 1 million, ça fait quand même 50 Paris-Bercy. Ce qui fait quand même pas mal de frites. Enfin bon, je suis pas Zerator, mais peut-être que moi aussi, un jour, je pourrais faire Paris-Bercy.
Alors j'ai choisi Benjamin Brio parce qu'il fait la postface de votre livre Bruno Solo et il écrit très justement, se pencher sur l'histoire, c'est donner du temps au temps. Soit l'inverse de notre temps médiatique qui abandonne le temps de la réflexion pour l'instantanéité des avis. Est-ce que vous arrivez, vous, à vous trouver une place dans ce conflit de temporalité?
Bah oui, à titre personnel, j'ai une passion pour le temps qui passe et pour le fait de prendre son temps. Je suis pas sur les réseaux sociaux, je suis pas le seul, mais je fais partie de ces artistes qui ne sont présents ni sur Facebook, ni sur Twitter, ni sur Instagram. Pourquoi? Parce que je vois aussi à quel point c'est chronophage. Ce mot est affreux, mais bon, il existe, donc je l'emploie. Et effectivement, moi, je veux continuer à pouvoir lire, à pouvoir prendre le temps, à pouvoir, comme je le mets en exergue de mon livre, je dis « lisez comme une poule boit en relevant fréquemment la tête ». C'est Jules Renard qui disait ça. Jules Renard qui écrit sur les poules, c'est drôle. Mais c'est vrai que lire, c'est aussi... C'est prendre le temps de comprendre ce qu'on vous raconte et d'y amener votre humeur, vos éléments. Et pour ça, il faut fréquemment relever la tête.
Oui.
Et lorsque je regarde ma femme, mes enfants, des copains, des copines, qui savent plus ou moins se servir des réseaux sociaux, moi je ne sais pas parce que je suis totalement néandertalien à ce sujet-là, mais lorsque je les regarde, je les vois plonger dedans, souvent, les gens. Je vois que en fait, ils zappent, ils passent d'une info à une autre, ça va vite, on se lasse, etc. Pas mon épouse, mais... Parce qu'on en discute souvent, mais le nombre de gens que je vois plonger, etc. Et la littérature et plein d'autres choses vous permettent de temps en temps de vous détacher de l'écran, de vous détacher des pages et de réfléchir à tout simplement à ce que vous avez lu. Et Benjamin Brio, juste pour revenir pour lui, c'est une des personnes justement qui aborde l'histoire par de manière transversale, de manière extraordinaire. Hugo Bimard aussi le fait avec Confessions d'histoire.
Oui.
Et c'est des gens qui me passionnent et j'étais extrêmement fier qu'ils fassent la postface de mon livre.
Et c'est tout à fait récurrent à la fois avec la postface du livre donc qui s'appelle Les Visiteurs d'Histoire. C'est publié aux éditions du Rocher et c'est tout à fait raccord aussi avec la Guerre des Trônes. Merci infiniment d'avoir été avec nous en direct ce matin sur France Inter. La Guerre des Trônes c'est ce soir à 21h05, donc deux derniers épisodes. Et puis les quatre premiers sont disponibles sur France.tv. Dans un instant, vous allez retrouver Ali Rebéi pour Grand Bien vous fasse avec un sujet qui devrait vous plaire, Bruno Solo. Comment Montaigne nous aide à vivre ?